Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente matinée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fréquence Association. La vente de produits bio en Hauts-de-France a augmenté entre 20 et 25% durant le confinement. C'est ce qu'affirme une étude de la société Nielsen datant du mois d'avril. Un signe encourageant pour les associations qui essayent de promouvoir les produits bio en France. Et justement, ce mois-ci, comme chaque année à cette période, c'est le printemps bio et ce jusqu'au 15 juin. Et dans la région Hauts-de-France, c'est l'association AproBio qui coordonne cette opération. Et je suis en compagnie à présent de Sophie Mélic. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous sur Radio Plus. Vous êtes chargée de communication de l'association AproBio. Alors AproBio, qu'est-ce que c'est ?
Alors AproBio, c'est l'association pour la promotion et le développement de l'agriculture biologique dans les Hauts-de-France. Elle a été créée en 1994. Elle fédère l'ensemble des acteurs de l'agriculture biologique, donc les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, mais aussi bien sûr les consommateurs, les associations environnementales, les centres de formation, les bureaux d'études. Donc notre association a trois objectifs principaux: développer, structurer et relocaliser les filières bio dans notre région.
Alors combien d'acteurs regroupe AproBio ?
Alors en 2019, AproBio fédérait 64 adhérents. On travaille également en partenariat étroit avec une douzaine d'intercommunalités, trois parcs régionaux, les départements du Nord, de la Somme, du Pas-de-Calais. Et on travaille également avec la région, la DRAF, qui anime le plan bio-régional.
Alors, à quel type de public vous adressez-vous et de quelle manière ?
Alors, notre action porte sur différents volets. On accompagne des entreprises et des futures entreprises bio. On développe des filières bio équitables et tracées dans les Hauts-de-France. Par exemple, en ce moment, on fait le développement de la filière pain avec la marque Ptinor, la filière bière, et on va bientôt travailler sur la filière vrac. On fait également l'accompagnement des politiques alimentaires portées par les territoires. Par exemple, on aide à l'introduction des produits bio en restauration collective et on sensibilise les consommateurs. Donc, pour tout le public, entrepreneurs, élus, consommateurs, centres de formation, gestionnaires, cuisiniers.
Voilà, donc évidemment un spectre très large justement pour pouvoir intervenir le plus possible sur cette filière bio. Alors vous avez constaté avec votre association Sophie Mélic, au travers de l'étude de Nielsen dont on a parlé dans cette introduction, eh bien une progression de la consommation de produits bio durant le confinement. Comment interprétez-vous cette progression ?
Alors, on n'a pas assez de recul pour le moment, mais on va dire qu'on a plusieurs pistes. On pense que les consommateurs se sont repliés vers les magasins de proximité, dont les magasins bio. On pense également qu'ils se sont repliés vers des aliments qu'ils considèrent plus sécurisants du point de vue sanitaire, donc des produits bio et des produits locaux. Et bien sûr, le panier moyen des consommateurs a augmenté, vu qu'ils mangeaient midi et soir chez eux, et qu'avant, ils pouvaient consommer, on va dire, hors du foyer, dans les restaurants ou dans les cantines.
Voilà, et puis c'est vrai que ce sont plus les magasins de proximité que les grandes surfaces, les grands hyper qui ont vraiment profité de cet engouement. Et puis également les drives, hein, on a observé aussi dans cette étude un engouement sur la vente de produits bio dans les drives qui ont été très prisés évidemment pendant cette période de confinement. Alors on l'a vu également pendant cette épidémie, hein, des études chinoises corroborées par des constats sur le terrain ont montré que 48% des malades hospitalisés souffraient de diabète ou d'une maladie cardiovasculaire. Est-ce que vous pensez que cet engouement pour l'alimentation bio est essentiellement dû à des préoccupations sanitaires ou c'est plus large que ça ?
Les premiers retours qu'on a des magasins spécialisés pour l'instant montrent que la première raison de la hausse de la consommation, c'est vraiment la proximité des points de vente bio, du domicile des consommateurs. Mais c'est vrai que dans le contexte sanitaire actuel et pendant la période de confinement, on peut penser que les Français étaient peut-être plus disponibles, plus réceptifs à cette thématique et qu'ils se sont un peu interrogés sur leurs habitudes alimentaires.
Comment se porte la filière régionale du bio actuellement ?
Alors, la filière bio française est en plein développement depuis plusieurs années. On va dire que la diversité des produits bio certifiés et des circuits de transformation n'ont cessé d'augmenter. L'agence bio est en train actuellement de faire une étude pour l'année 2019 qui nous montrera, on va dire, l'impact de la crise sur la filière. Mais globalement, on est en plein développement.
Pourquoi la filière régionale bio demeure-t-elle en queue de peloton à l'échelle nationale ?
Alors, on n'est pas en queue de peloton partout, donc pas dans la distribution, pas dans la transformation. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la production bio-régionale, donc en fait en termes de surface agricole utile, donc la surface agricole utile, c'est la surface consacrée à l'agriculture en France. Et donc oui, on va dire qu'historiquement, on est une région qui est très agricole, qui possède des terres de très bonne qualité et des cultures, on va dire, à forte valeur ajoutée. Par exemple, vous avez la betterave ou la pomme de terre. Il faut savoir que vous avez vous avez des débouchés bio, pardon, qui viennent juste d'être créés. Donc, par exemple, vous avez la betterave sucrière pour le sirop de sucre Hauts-de-France qui vient vraiment juste en 2019 d'être créé. Donc, on n'est pas dernier partout. Après, on est également dernier en termes de consommation de produits. On va dire que des études ont montré que les habitants des Hauts-de-France, on va dire, sont moins familiers avec l'offre de produits bio et sont moins informés sur les garanties du label. Ils ont des doutes sur la fiabilité du label. Donc c'est pour ça que pendant le printemps bio, là pendant cette semaine et la semaine prochaine, on a développé un kit qui s'appelle le label bio Altos idées reçues. Donc en fait, vous avez 7 cartes avec 7 thématiques. 7 idées reçues qui sont régulièrement abordées par les consommateurs. Donc, vous avez bien sûr le prix, l'impact sur la santé, l'impact sur l'environnement, la réglementation. Donc voilà, pendant ce printemps bio, on essaye de déconstruire ces idées reçues en accompagnant les consommateurs à découvrir le label, les garanties et la qualité des produits bio.
Alors, il est vrai hein, que en termes de surface agricole utile, c'est particulièrement le cas. Hein, j'ai pu regarder quelques données. C'est particulièrement le cas dans le département du Pas-de-Calais. Hein, on a 1,1% de surface agricole utile dans le département du Pas-de-Calais. Est-ce que cette consommation un petit peu au rabais de produits bio dans la région n'est pas aussi une question de pouvoir d'achat ? D'après vous,
on ne pense pas. C'est vraiment en plein développement dans notre région. Après, on pense que c'est vraiment un manque d'information et on essaye vraiment de parler du label, de ses qualités durant ce printemps bio. C'est pour ça voilà qu'on existe aussi pour informer les consommateurs. On pense qu'il y a vraiment un manque d'information. On ne pense pas que ce soit lié à ça.
Très bien. Restez avec nous. On revient d'ici quelques instants.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Et nous sommes toujours en compagnie de Sophie Mélic, chargée de communication de l'association AproBio. Et on va revenir bien sûr dans quelques instants sur le printemps bio 2020 qui est un peu particulier cette année, hein, crise du coronavirus oblige. Est-ce que malgré tout, les habitants de la région ont plus soutenu la filière bio locale pendant le confinement ?
Oui, de manière générale, on a vu que les consommateurs se sont vraiment davantage tournés vers une consommation de produits locaux et vers les circuits courts, vraiment de vente directe.
Alors, vous avez lancé donc ce printemps bio, hein, vous venez de l'évoquer, hein, de manière virtuelle exceptionnellement cette année, et vous insistez sur les idées reçues autour du bio, mais aussi sur la nécessité hein, de consommer autrement. Alors déjà, pourquoi faut-il, selon vous, consommer bio et local le plus possible aujourd'hui ?
Alors, je pense que consommer bio et local, c'est avant tout un acte vraiment de santé publique. Le mode de production biologique permet vraiment de préserver la biodiversité, le sol, l'air, les cours d'eau. dont on est vraiment dépendant pour vivre. Quand on consomme bio et local, on réduit ainsi notre empreinte carbone, mais notre empreinte environnementale. On contribue aussi à relocaliser notre économie. On soutient nos producteurs locaux, on soutient les producteurs de la région. Et manger local et bio, ça nous garantit également d'avoir des produits frais, des produits de saison, des produits qui sont nutritifs et qui sont sans trace de produits chimiques.
Quels sont vos partenaires pour ce printemps bio 2020?
Comme je vous l'ai dit, on travaille donc avec la DRAF, la région, les départements du Nord, de la Somme et du Pas-de-Calais. Donc, on a énormément de partenaires pour ce printemps bio.
Vous diffusez donc des kits halte aux idées reçues. Hein. Quelles sont justement les principales idées reçues autour du bio, Sophie Milik?
Alors, on en a choisi 7 pour ce printemps bio. Donc, vous avez d'abord la réglementation. On explique aux personnes que l'agriculture biologique est réglementée, qu'elle est contrôlée tous les ans par des organismes certifiés par l'État, pardon. Vous avez le prix, bien sûr. Pourquoi l'agriculture bio est plus chère? Donc on explique aux consommateurs que il faut plus de main d'œuvre. L'agriculteur utilise beaucoup moins de machines pour éviter de détruire le sol. Donc voilà, il faut rémunérer cette main d'œuvre. Vous avez la santé, vous avez des consommateurs qui ne sont pas forcément sûrs que les produits bio sont meilleurs pour leur santé. Donc voilà, on leur explique également ça. L'environnement, bien sûr, est-ce que l'agriculture biologique préserve vraiment l'environnement? On développe aussi des autres cartes dans ce kit. Vous avez aussi la variété de l'offre actuelle sur notre territoire. Il faut savoir que tous les produits sont disponibles dans notre région. Tous les produits bio sont disponibles dans notre région. Vous avez également voilà donc cette offre régionale et on parle aussi de l'innovation au sein de la filière. L'agriculture biologique, c'est pas revenir au Moyen-Âge, comme c'est écrit sur notre petite carte, c'est vraiment, voilà, on innove chaque jour dans l'agriculture biologique.
Alors, une question qui vient de me traverser l'esprit et que peut-être certaines personnes se posent, le label bio en lui-même, hein, quand on achète un produit bio, qu'on voit effectivement, par exemple, le label AB, hein, agriculture biologique, est-ce qu'il est équivalent en France par rapport aux autres pays européens? Parce qu'on a parfois affaire à des produits bio, mais qui viennent d'autres pays d'Europe, est-ce que c'est la même chose?
Alors oui, l'agriculture biologique est encadrée par un règlement européen, donc tous les produits bio européens suivent les mêmes règles concernant la production, la transformation, la distribution, le contrôle, voilà. Donc tous les agriculteurs bio européens sont contrôlés au minimum chaque année par des organismes qui sont certifiés et homologués par l'État. Et donc oui, le bio d'Espagne est égal au bio de France. En tout cas, ils suivent exactement la même réglementation.
Très très bien. Donc voilà, et sans doute de quoi rassurer aussi les consommateurs qui nous écoutent. Alors vous organisez également un jeu concours en ligne, hein, dans le cadre de ce printemps bio 2020 avec l'association AproBio. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, bien sûr. Donc durant cette semaine, donc la première semaine du printemps bio, on dévoile notre campagne Label Bio Halte aux idées reçues avec 7 cartes, donc une carte par jour durant toute la semaine. À partir de ces cartes, on a créé un quiz, donc un concours pour inciter les consommateurs, bien sûr, à s'informer sur l'agriculture biologique, et ils peuvent tester leurs connaissances dans notre quiz. Donc vous pouvez gagner voilà 3 paniers garnis de produits bio régionaux. C'est jusqu'au 15 juin.
Voilà, donc jusqu'au 15 juin, peut-être une indication du site, hein, c'est sur le site internet, hein, ça se passe sur le site internet d'AproBio?
C'est sur notre page Facebook.
Sur votre page Facebook, d'accord.
AproBio, la bio près de chez moi en Haute-France, et vous pouvez bien sûr consulter le kit sur notre page internet, donc aprobio.fr.
Alors Sophie Milik, parlez-nous également hein, du challenge bio Haute-France, de quoi s'agit-il?
Alors donc durant la deuxième semaine donc du printemps bio, donc ce sera la semaine prochaine, on a organisé un challenge bio Hauts-de-France. Le but c'est vraiment d'accompagner ces changements d'habitudes alimentaires auprès des consommateurs donc de la région. Donc toute la semaine, les internautes, donc ça se passe toujours sur Facebook, sur notre page Facebook, les internautes pourront découvrir donc tous les jours des conseils pratiques, des défis. On fait également un webinaire donc en direct sur Facebook, donc sur les idées reçues avec deux expertes pardon de notre association.
Donc ça, ce sera quand exactement?
Alors c'est mardi 9 juin vers 10h30.
Très bien. Et donc, le nombre de participants est limité ou comment ça se passe?
Non, pas du tout. On est en direct, en visio. On a préparé, voilà, donc toutes les idées reçues qui peuvent freiner en tout cas les consommateurs à l'achat de produits bio. Et ce sera très interactif. Le but, c'est vraiment, ça s'adresse vraiment aux consommateurs, à la population des Hauts-de-France.
Alors on rappelle qu'on retrouve effectivement toutes ces informations sur ce printemps bio, sur votre site internet et sur votre page Facebook ApproBio. Plus largement, Sophie Milik, ces derniers mois, des agriculteurs conventionnels étaient souvent montrés du doigt de par l'utilisation des pesticides notamment. On a même parlé d'agribashing à un moment donné. Est-ce que vous observez de ce fait une conversion de plus en plus fréquente au bio de la part d'agriculteurs conventionnels?
Alors, il faut savoir que la conversion des terres agricoles, ça prend entre 2 et 3 ans, on va dire en moyenne. Notre région est vraiment la plus dynamique en termes de conversion à l'échelle nationale. Donc là, on attend les chiffres de l'Agence Bio qui fait une étude donc sur 2019 pour pouvoir, on va dire, confirmer cette tendance.
Quels sont les freins, s'ils existent encore, à la conversion bio?
Alors oui, bien sûr, ils existent encore. Vous en avez plusieurs. Vous avez bien sûr l'aspect financier. Donc, la conversion prend entre 2 et 3 ans en moyenne. Pendant ces 2-3 ans, l'agriculteur va avoir un rendement qui va être inférieur à un agriculteur conventionnel. On estime qu'il a 20% de moins de rendement qu'un agriculteur conventionnel. Mais il va vendre ses fruits et légumes au prix du conventionnel. Donc vous avez l'aspect financier bien sûr qui joue là-dessus. Vous avez la gestion de la main d'œuvre. Vous avez plus de main d'œuvre, ça nécessite une nouvelle organisation pour l'agriculteur. Et vous avez aussi les engagements techniques. Donc vous avez aussi des nouveaux équipements. Et voilà, c'est un peu un nouveau métier, des nouvelles règles, des nouvelles normes. Et donc oui, il y a encore des freins à la conversion.
Et j'imagine qu'il y a tout de même un accompagnement pendant cette conversion, un accompagnement financier de l'État. Est-ce que votre association milite pour un renforcement de cet accompagnement pendant la conversion?
Alors non, notre association a vraiment pour principale vocation d'accompagner les acteurs de la filière bio, donc les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs. Vous avez d'autres structures partenaires comme la Chambre d'agriculture, et la FNAB, donc la Fédération nationale d'agriculture bio des régions en France, qui sont mobilisées pour faire entendre, on va dire, les besoins des producteurs bio.
Alors, quid de l'aide au maintien des agriculteurs bio? Est-ce que pour votre association, il faut la réinstaurer parce qu'elle a été supprimée en 2017, de mémoire?
C'est compliqué. Les enjeux vraiment du développement de la production bio évoluent vraiment très rapidement depuis quelques années. Et on n'est pas du tout en capacité pour l'instant de nous positionner. On attend les chiffres de l'Agence Bio et voilà, on verra.
Très bien, Sophie Milik. Alors pour terminer, déjà, comment participer à ce printemps du bio?
Alors c'est tout simple, vous pouvez aller sur notre page Facebook, donc ApproBio, la bio près de chez moi en Hauts-de-France. Vous avez l'événement du label bio Halte aux idées reçues. Vous pouvez bien sûr consulter notre kit sur Facebook ou sur notre site internet approbio.fr. Vous avez le concours si vous voulez tenter de gagner un panier garni en répondant à quelques questions. Et vous avez le challenge avec à partir de la semaine prochaine, vous avez donc le webinaire en live mardi 9 juin à 10h30 pour pouvoir poser toutes vos questions sur les produits bio, sur les consommateurs peuvent poser en tout cas toutes leurs questions à nos expertes qui leur répondront.
Très bien, et un dernier mot peut-être pour convaincre les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, qui ne seraient pas encore passés aux produits bio, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre au moins d'essayer?
Durant notre challenge, par exemple, on propose d'aller toquer à la porte d'un agriculteur, d'un producteur, d'un magasin bio de proximité, d'aller voir, de discuter avec les personnes, avec les vendeurs. Essayer d'acheter un produit, ça peut être des produits simples, je veux dire du quotidien, du pain, de la farine, des œufs, ce genre de choses. Peut-être des fruits et légumes, on sait que il y a énormément de pesticides sur certains fruits, par exemple la cerise ou le raisin. On les lave pas forcément avant de les manger, donc essayer d'acheter, bien sûr en saison. Oui. Essayer.
Voilà, on essaye évidemment, et puis après on se fait évidemment sa propre opinion, et puis bien sûr on respecte toujours les gestes barrières actuellement en se rendant dans les magasins ou chez les agriculteurs bio de proximité. Merci beaucoup Sophie Mélic d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargée de communication de l'association Aprobio, et on rappelle bien sûr la tenue de ce printemps bio 2020 jusqu'au 15 juin. On retrouve toutes les infos sur la page Facebook, notamment de votre association Aprobio. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Très très bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
J'ai de la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien.
Je me laisse, je fais facile, je chante, c'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante. Quand de haut en bas Satan, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je mens, ouvre tes yeux. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. C'est ok, je suis fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je mens, ouvre tes yeux grands. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse. Comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne
à l'instant, c'était Camélia Jordan sur Radio Plus avec Facile, et juste avant, c'était Ridan, bien sûr, avec Objectif Terre. On va s'intéresser à présent au Centre Social Interculturel ALCO qui se situe à Amiens et qui essaye justement de maintenir le lien avec ses adhérents, chose qui n'est pas forcément, qui n'était pas forcément évidente pendant la période de confinement. Et je vous propose d'écouter donc ce reportage signé de Radio Campus Amiens et de Hugo Brissé sur Radio Plus.
Aujourd'hui, on part prendre des nouvelles du Centre Social Interculturel ALCO, situé à Amiens Nord. L'association, qui existe depuis 40 ans, accueille plus de 300 familles chaque année. Et pendant le confinement, le centre a tenu à maintenir le lien avec celle-ci. Le 19 mai, nous avons interrogé Mamed Eliba, directeur de l'ALCO. Alors, cours de langue, initiation à l'informatique, soutien scolaire, atelier pratique, vous organisez un certain nombre d'activités toute l'année. Alors, comment vous avez adapté justement le fonctionnement du centre avec le confinement ?
Concrètement, on s'est retrouvé chacun chez soi. confinés. Et au bout d'une journée, ça va. La deuxième journée, ça commençait à devenir un peu lourd. Pour dire, mince, nous qui sommes militants du lien social et de la rencontre dans la proximité, de l'aide aux familles, de l'aide aux habitants, etc., on se retrouvait sans raison d'être. Et puis à partir de ce moment-là, les initiatives, ils ont fusé. La chose la plus intéressante, c'était de dire, ouais, mais bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait? On part du principe simple, hein. Il n'y a que celui qui fait rien qui risque pas de se tromper. Donc on a dit, il faut reprendre contact avec les gens. Alors, comme toute association qui se respecte, on a des adhérents, des usagers, on a beaucoup de monde, beaucoup de familles, effectivement, comme vous avez dit, plus de 300 familles. Et avant, on avait un système où on envoyait les SMS groupés, etc. Comme on a été confinés, le dispositif pour envoyer des SMS regroupés était lié à la téléphonie du siège social. Comme on ne pouvait pas envoyer des SMS groupés, on s'est divisé les 300 personnes sur les 8 permanents et puis on s'est mis directement à téléphoner aux personnes. Alors là, ça a été un bonheur complet pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour les personnes qu'on appelait. C'est-à-dire on a fait revivre le lien social directement de vive voix. On appelle les gens, on demande comment ils vont, comment vont les enfants, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose, etc.
Ouais.
Et bien, au fait, on est revenu au PABA du lien social, où pas d'intermédiaires, pas de sophistication, pas d'artifice. Et puis les gens, entre ceux qui sont bien, bon ça va, ceux qui ont balisé ou qui étaient un peu dépassé et tout, ça permet de parler, ça permet de dire, voilà, j'aurais besoin de ceci, de cela. Et puis on a maintenu cette relation humaine qui est très, très, très importante.
Oui.
Ça, c'est les premiers... Chaque semaine, on fait ça, en fait, depuis le confinement.
L'association a profité de ces échanges pour recueillir des témoignages sous des formes diverses, écrits, dessins, paroles, qui feront peut-être l'objet d'un recueil, d'un débat ou encore d'une exposition. L'ALCO a tenu aussi à maintenir plusieurs ateliers à distance.
On a essayé de faire vivre les activités à distance, celles qu'ils peuvent, celles qui peuvent rester à distance, à savoir la veille éducative et scolaire. Vous verrez, il y a beaucoup d'enfants qui reçoivent de leurs profs des devoirs. Ils ont des difficultés, donc ils nous appellent, on les appelle via le téléphone, via le WhatsApp, via Messenger. Et donc, il y a eu un maintien de la veille éducative qui était franchement formidable. Ça a aussi révélé tout le travail de grande teneur qui a été fait par les enseignants, que ce soit des écoles élémentaires ou les collèges. Et ça a noué d'autres relations et les choses se passeront plus comme avant, en fait. Hein.
Donc,
il y a le avant et le après confinement. Hein. C'est clair, c'est net, etc. Donc ça, c'est au niveau de la veille éducative. Au niveau... d'autres ateliers, l'atelier alphabétisation, où les personnes avaient une relation de socialisation intéressante, d'échange, d'apprentissage du français, d'apprentissage de la vie en France. Ils ont noué des relations d'amitié, de convivialité et tout. Ils ont continué via l'animatrice qui les maintient au niveau de Messenger et du téléphone et de WhatsApp, à continuer à produire des choses, à apprendre le français, à se débrouiller. Donc ils ont basé ça sur les recettes culinaires. Elles font des gâteaux, elles écrivent les recettes, on corrige, on renvoie sur l'animatrice qui revoit avec les personnes. Et puis des photos, ils sont publiées sur Facebook, sur la page, sur le blog de l'ALCO, etc.
Oui, c'est très important
de valorisation.
De garder la dynamique comme ça, ouais, dans l'apprentissage d'une langue.
Oui, et même les gens, on passe à un cran de valorisation qui dit pas son nom, qui n'est rien du tout, mais qui est hyper important. Quand quelqu'un s'applique à rédiger une note, à faire une photo d'un gâteau ou d'une recette, il l'envoie, elle est publiée, il y a un retour sur ça, c'est un peu la valorisation des uns et des autres qui est assez intéressante.
Oui.
Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on avait, on a un grand pôle numérique à l'association à travers le multimédia. On a mis en place depuis 2 ans maintenant un Fab Lab qui a vraiment le mérite d'être hyper structuré, hyper équipé. Et, il fallait donner du sens aussi. Et donc, il y a eu la continuité d'ateliers de programmation numérique avec les jeunes qui fréquentaient le centre, mais avec le confinement, ils ne pouvaient plus. Donc, il y a eu, via le téléphone, via Messenger, à distance, on continuait à faire la programmation numérique. C'est-à-dire, l'animateur multimédia prépare ses programmes, ses leçons, si on peut dire, ses devoirs. Il les envoie aux jeunes, qui les bossent, et puis il se donne un délai de renvoyer les résultats, etc. Puis ça noue une relation structurée qui est très sympathique.
Oui.
Donc c'est franchement des choses... En fait, on apprenait en marchant, nous. Un jour c'est ça, un autre jour c'est ça, puis un jour après tout, pourquoi pas.
Le centre social a aussi un atelier couture pendant l'année, atelier qui a été mis à contribution pendant le confinement.
La première préoccupation de l'animatrice qui anime cet atelier-là, c'est une professionnelle couturière, c'était de dire, ben oui, pour se protéger, comme il y avait quand même un souci de masque en France, donc tout le monde a commencé par réfléchir sur si on confectionnait des masques.
Et donc vous voyez, vous en avez confectionné un certain nombre, vous continuez d'ailleurs?
On continue. Alors du coup, on a déjà démarré, puis après, juste après, on a été contacté par la ville d'Amiens pour faire le lien avec la société, le CIT Dessin,
oui,
qui ont du tissu, etc., qui sont connus sur Amiens, pour rentrer dans le réseau, ça, c'est une structure qui s'était constituée d'ailleurs, Masque Ensemble. Donc, qui produisait via plusieurs structures pour produire des masques qui sont livrés à l'hôpital et aux soignants. Et donc, ça continue. Donc, nous, on a des usagers, donc on a aussi négocié avec eux de confectionner une partie pour nos usagers. Parce que là, on vient d'ouvrir aujourd'hui au public. Hein. On a ouvert la semaine dernière, mais aujourd'hui, on est au public.
D'accord.
Donc, on a un certain nombre de masques à donner en cas de nécessité. Parce qu'il y en a qui se baladent sans masque. Mais dans le cas où on est tenu, on peut donner des masques à des usagers. Quoi.
Donc là, vous allez reprendre progressivement avec le déconfinement le cours normal de vos activités?
Ça va être très compliqué.
Ah oui, parce que vous accueillez beaucoup de gens, ouais, on le disait.
Il y a trop de... Je vais vous donner juste une indication. L'atelier Couture sans frontières, on a 12 machines, 2 brodeuses, une surjeteuse et tout. Il y a 88 femmes inscrites.
Eh oui.
Donc, ouais. Le tour est joué. Le tour est joué. Donc, avant, c'était mardi, jeudi, vendredi. Aujourd'hui, on maintient ces dates-là, mais on ne peut pas recevoir plus de 4 femmes. Plus l'animatrice et puis la couturière professionnelle qui encadre l'atelier. Donc les mesures de sécurité nous obligent à mettre en sécurité un certain nombre de personnes et de règles.
Oui, j'imagine. Ça doit vous faire du bien. Donc, quand même de retrouver les locaux.
On revient aux locaux d'une façon un peu plus parcimonieuse,
oui,
un peu plus tranquille, etc. La difficulté est mais c'est un peu ce qu'on redoutait, mais pour l'instant, je touche du bois, c'est que les gens, y compris dans notre quartier, dans nos quartiers, j'allais dire populaires, si on peut dire, parfois la discipline, elle est reléguée à un autre stade. Mais là, ça va, là, on n'a pas à se plaindre. Donc les choses, ils ont l'air de se mettre en place tranquillement. Mais ceci dit, nous, on a été très clair pour poser le protocole, c'est de dire... Il n'est pas question, mais alors pas une seconde, à mettre la vie des gens en danger,
oui,
à vraiment passer outre les mesures de sécurité et les mesures barrières.
On rappelle pour les auditeurs et auditrices, donc pour suivre l'actualité de l'ALCO, il y a notamment un site, donc c'est www.centre-alco.org. Merci, merci Mohamed Aliba, donc directeur de l'ALCO.
Je vous en prie, au plaisir de nous revoir.
Une interview réalisée le 19 mai par Hugo Brisset de Radio Campus Amiens.
Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Voilà pour ce reportage donc signé Radio Campus Amiens. Vous êtes toujours sur Radio Plus dans Fréquence Association. On est encore ensemble une bonne dizaine de minutes et on va se retrouver d'ici quelques minutes pour l'actualité associative. Tout de suite, c'est Niagara. Quand la ville dort, c'était Niagara, bien sûr, sur Radio Plus. Tout de suite, on passe à l'actualité associative. Les aides de l'État montent en puissance pour faire face à la crise du coronavirus. La création d'un fonds de 10 millions d'euros par an a été annoncée le 17 mai dernier à destination des petites associations de proximité. C'est le ministre Julien Denormandie, chargé de la ville et du logement, qui a reconnu que les associations de petite taille étaient les maillons de la solidarité et que l'État avait des difficultés à les accompagner. C'est pourquoi il a annoncé la création de ce fonds pérenne de 10 millions d'euros par an. Concrètement, ce fonds doit servir à subventionner les actions de grande proximité pour des montants allant de 500 à 2500 euros. Vous pouvez d'ailleurs retrouver normalement le tweet de Julien de Normandie qui dit, je cite, hein, j'annonce aujourd'hui que nous allons pérenniser un fonds de solidarité qui sera doté de 10 millions d'euros par an pour les associations de grande proximité. Un ouvrage sur l'exploitation en milieu associatif. Te plains pas, c'est pas l'usine. C'est le titre de cet ouvrage forcément polémique de Lily Zalzette et de Stella Finn, qui va à l'encontre de l'image idyllique de l'emploi associatif. Je cite le résumé de l'ouvrage. Ce livre rend compte de modalités d'exploitation insidieuses dissimulées derrière l'idéologie du civisme et de l'engagement associatif. Rapports hiérarchiques brutaux, chantage à la responsabilité, injonction permanente à ne pas compter ses heures, utilisation sans mesure du bénévolat et des services civiques. Fin de citation. Cet ouvrage est publié chez Niette Édition au prix de 7 euros. À vous de vous faire évidemment votre propre opinion. On va retrouver une dernière actualité associative d'ici quelques instants. Ce sera juste après Étienne Dao et Paul Tatou.
Peace.
Étienne Dao sur Radio Plus avec Épaule Tatou. Allez, tout de suite, une dernière brève de l'actualité associative. Avec ce rapport de la députée La République En Marche, Audrey Dufeu-Hubert, intitulé « Réussir à la transition démographique et lutter contre l'âgisme ». Un rapport qui est un peu passé sous les radars de la presse, pourtant il contient plusieurs propositions intéressantes à la fois les collectivités avec le développement de l'habitat inclusif partagé, de l'habitat intergénérationnel, transformation des EHPAD et avec la création de pactes locaux de la longévité. Mais ce rapport intéresse également le secteur associatif. Alors je vous donne le titre exact de ce rapport d'une soixantaine de pages. Ça s'appelle « Réussir la transition démographique et lutter contre l'âgisme ». Donc rapport réalisé par Audrey Dufeu-Hubert, députée de Loire-Atlantique, un rapport commandé par le Premier ministre. Voilà, c'est la fin de Fréquence Association. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site www.radioplus.fr. Et dans quelques instants, eh bien, vous avez rendez-vous avec Microscope, le magazine des radios associatives du nord de la France. Très bonne matinée à toutes et à tous.